À voix nue, Alain Corneau, par Sophie Nolo.
Alain Corneau, cinquième.
D'un souffle à l'autre. J'ai cité hier, alors que nous nous quittions, Garcia Lorca pour le Duende, mais je me demande finalement s'il n'y a pas plutôt en vous, Alain Corneau, un rien de Pessoa pour ces nombreux hétéronymes, car vous passez sans souci d'un film noir à une comédie polynésienne, d'un film d'une immense délicatesse et d'une grande fragilité, les mots bleus au deuxième souffle, où il y a 2h30 de coups de feu, de sang, d'effets spéciaux et de loi du milieu aussi. Vous dites à propos du deuxième souffle que de tous vos films, c'est celui que vous avez porté en vous le plus longtemps pour une si longue gestation et une mise au monde à gros budget. Ça a tout de la marche à la mort quand même, non? Ce film.
Ah oui, c'est une tragédie.
Oui, oui, le thème du
film.
Ah
oui, Fatum, oui, oui, absolument.
Je ne parle pas du succès, je parle
c'était
du film.
Collé au succès, c'était collé au livre, ça, de nouveau. Il faut revenir au livre. Hein. C'est le livre de José Giovanni qui a été mon obsession première pendant des années et des années. Voilà, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, quant à ce louvoiement, bon, on en a parlé. Hein, je veux dire, cette façon d'agir sans frontières, je ne sais pas comment dire ça. En homme libre, mettons, pour être positif. Bon. Le deuxième souffle, c'est une vieille histoire qui m'appartient parce que c'est une histoire avec le film noir. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à faire des films policiers ou noirs, ces mythologies-là étaient déjà en déshérence. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas comment on pouvait refaire des gens, des gangsters à Pigalle, etc. Donc on a fait autre chose. Le cinéma policier a continué à exister comme genre collectif, ce qui est à mes yeux sa noblesse en France, qui était toujours important. Après, au tournant des années 80-85, le genre s'est très amenuisé en France, pour la première fois dans l'histoire du cinéma français, pour plein de paramètres différents. Il y a les raisons politiques, il y a la télévision, il y a le vieillissement des codes, il y a plein de raisons qui ont fait que d'un seul coup, ce n'est plus devenu un genre important en nombre de films. Il y avait un film l'un après l'autre. La façon de traiter les sujets a beaucoup changé. Il est devenu beaucoup plus documentaire, beaucoup plus naturaliste. Beaucoup d'anciens flics se sont mis à écrire, et non plus des ex-truands ou pseudo-truands. C'est-à-dire que ça devenait vraiment très documentaire. Moi-même, j'ai fait un film qui s'appelle Le Cousin, qui était de cette obédience-là, écrit avec un ex-policier, où on parlait de la vie quotidienne des flics, etc.
Avec Patrick Timsit.
Avec Timsit et Alain Chabat. Mais en même temps, alors bon, en même temps, j'avais toujours cette espèce d'obsession du deuxième souffle, parce que ces grandes mythologies que je pense éternelles, la parole donnée, le code de l'honneur, la tragédie en tant que mécanique narrative, etc., tout ça a quitté presque... En entier, je parle du cinéma français, en entier le cinéma policier, mais s'est réfugié dans plein d'autres genres. S'est réfugié bien sûr en Asie, hein, où eux, alors ils ont repris le flambeau, et ils faisaient beaucoup de films avec une forme différente, en inventant des choses grâce à leur culture asiatique, que ce soit les Coréens ou les Chinois, le Hong Kong. Ça existait dans les films de science-fiction, ça existait dans les films de sabre, ça existait dans les films d'aventure, mais plus dans le cinéma noir. Et moi, j'avais toujours cette idée d'attendre, pas attendre, est-ce qu'il est temps de revenir à ces mythologies dite ancienne ou éternelle, au choix. Et je me souviens toujours de José Giovanni, que je voyais régulièrement, etc. Et qui, nous disait « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là ? Le cinéma noir doit faire rêver. Qu'est-ce que ces personnages qui sont sans foi ni loi, etc. Comment voulez-vous que bâtir quelque chose là-dessus ? » Je disais « Écoute, José, je sais, mais on cherche tous des chemins différents, etc. » Il y avait le 627 qui était sur la vie quotidienne des flics, il y avait tout ça. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'avais eu un premier essai de refaire le deuxième souffle en l'actualisant où ça marchait pas sur le scénario. C'est-à-dire que ce truc mis aujourd'hui, ça marchait pas, donc j'ai abandonné en me disant « mais je peux pas faire un film sur les épaules des années 60 ». J'ai même tenté, des années plus tard, d'essayer de le délocaliser aux États-Unis. Ça me paraissait faux. Je pensais que le racinement du livre était tel que c'était pas possible de le faire là-bas. Donc j'abandonnais à chaque fois. Et puis comme toujours, un film, c'est le temps qui passe. C'est très souvent une obsession ou un rêve avorté et une rencontre, un événement de hasard. Soit un livre, soit là, une discussion avec des producteurs, donc Michel et Laurent Pétain, avec qui je venais de faire Les Mots Bleus, qui m'ont dit « Mais pourquoi tu refais pas un film noir ?» Et j'ai dit « Mais écoute, je connais plus les boutons, je sais pas où appuyer, etc. Le seul truc qui m'amuserait, ça serait de faire le deuxième souffle depuis toujours. » Et là, ils me disent « Mais nous aussi. » Alors là, en 10 secondes, c'est un projet, c'est comme ça, hein, ça se fait en 10 secondes. Bon. En 10 secondes, je leur ai dit « Ok, on y va. » Alors, un, ça se passe à l'époque. Deux, il faut jouer le jeu de ces grandes mythologies. Trois, il faut retrouver un nouvel univers. Il faut avoir notre vision aujourd'hui. Je pense que 45 ans ont passé, ça y est, ça redevient des postures morales neuves à réexpliquer. Et trois, il faut un gros casting. Il faut des grandes pointures et je vais faire une première adaptation, une deuxième, une troisième, j'en sais rien. Et puis on va demander une liste d'acteurs qu'on appelle idéal, une liste idéale. Si on a la moitié de refus, bah faut pas faire le film. Ça veut dire que eux, acteurs, ne sentent pas la nécessité de reprendre ces chaussures-là. Voilà. Les acteurs contactés ont accepté tout de suite. Donc ça veut dire que ça leur paraissait pas étranger. Donc ça a été un encouragement de plus et on a commencé à travailler la forme du film. Voilà, comme à chaque fois, en se disant, bah alors comment on fait ce film? Et là, l'influence asiatique nous est tombée dessus gros comme une maison. On s'est dit, bah, les seuls qu'on fait avancer l'univers noir, ce sont beaucoup les Coréens, beaucoup les Chinois. Parce que quand on fait un film comme ça sur les années 60 avec des gangsters, chose que j'ai jamais fait, jamais film de gangsters. Il y avait un gangster dans Le Choix des armes, mais il était retiré. Hein. Bon, c'était avant tout Depardieu qui venait foutre la merde. Donc si on fait ça, je ne peux pas refaire un film pseudo noir et blanc. Je ne vais pas refaire un film dit rigoureux ou avec le bleu acier du polar traditionnel. Il faut qu'on prenne le pari, le risque énorme de recréer un univers, parce qu'aucun grand film noir, et surtout un film noir de gangster, ne peut être réaliste ou naturaliste. C'est forcément une sorte de fable. C'est forcément quelque chose qui est du domaine du rêve, du domaine de la... Donc il faut qu'on crée un univers. Comme toutes les grandes périodes du cinéma noir, on crée un univers, une vision, un environnement lumineux, des couleurs... Qui tend vers ce qu'on appelle bêtement l'abstraction, mais qui en tout cas pas réaliste et pas naturaliste. Voilà. Donc on a commencé à travailler sur les couleurs, le numérique, etc.
Assez expressionniste finalement.
Oui, qu'on peut appeler ça expressionniste, on peut appeler ça comme on veut. Je pense qu'il est de bonne guerre dans le cinéma de genre de s'influencer les uns les autres. Les Asiatiques nous ont vampirisé un certain nombre de thèmes et de sujets. Ils ne sont pas les derniers à parler de Melville. Hein. Tarantino a beaucoup parlé de Melville aussi, donc tout ça, c'est dans l'air du temps, d'une certaine manière. Je comprends très bien ce qu'ils disent, tout ça, et je pense qu'à partir d'un certain moment, on peut effectivement reprendre ce qu'ils nous ont apporté et l'accommoder à notre sauce, à nous. Mais encore une fois, c'était le livre de José qui était la pièce maîtresse de cette envie et de ce projet. Le livre de Giovanni est, à mon avis, un des plus beaux livres qu'il ait jamais écrit, dans lequel il y a effectivement le poids du destin d'un bout à l'autre, la mécanique est implacable. Il y a en plus ce thème extraordinaire de la parole donnée, du code de l'honneur, chose qui obsédait Giovanni. Or, il a réussi, dans ce livre, à mettre le personnage principal de Gu comme étant un foudre de guerre sur l'honnêteté.
C'est son épine dorsale.
Voilà, et en fait, c'est lui qui balance. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment il a réussi ça, mais enfin, ça s'appelle le deuxième souffle à cause de ça. Hein. C'est-à-dire qu'il donne les noms, même s'il se fait manipuler, même si c'est un piège. N'empêche qu'il le fait. Il y a un moment absolument magique là-dessus. Tout ça fait que ce livre m'a beaucoup obsédé, très très longtemps obsédé. J'ai toujours pensé que c'était un livre absolument magnifique dans lequel la conduite du récit, la conduite des personnages principaux et la perte d'eux-mêmes étaient absolument portées à son point de perfection en termes littéraires. Voilà.
Et sur ce code de l'honneur, vous avez l'impression, Alain Corneau, que dans nos sociétés, il y a une perte de ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a une échelle pour vous comme ça qui placerait le code de l'honneur très haut?
Je ne crois pas qu'il y ait une perte, parce que je pense qu'on dit toujours, on l'a toujours dit, j'ai toujours vu ça, cette génération nouvelle n'a plus aucun sens de l'honneur, ce qui est complètement faux. Bon, c'est simplement qu'ils le vivent différemment. Bon. Je pense par contre que dans le cinéma, pour parler uniquement de cinéma, c'est vrai qu'on a eu du mal à réaffronter ces grands thèmes-là. C'est quelque chose qui paraissait trop codé, académisé, etc. À juste titre, sans doute, pendant un long moment, certainement. Maintenant, je pense que ce sont des thèmes absolument éternels. Je veux dire, on ne peut pas faire fonctionner le système tragique, dans le sens du fatum grec, hein, pour parler très simplement, peut-être un peu trop, d'une manière un peu trop orgueilleuse, mais vraiment, c'est comme ça, sans avoir ces thèmes-là. Ça ne marche pas, sinon. S'il y a des gens qui n'ont aucun sens de la parole donnée ou de l'honneur, etc., il n'y a pas de système tragique, ça n'existe pas. Ou alors c'est juste des gens qui sont suicidaires, ce qui n'a absolument rien à voir. Le personnage de Gu dans le roman de José n'est absolument pas suicidaire, il est porté par autre chose. Il est porté par une espèce de situation qu'il n'assume pas comme étant celle qui est possible. Un autre thème qui est très important, qu'on a souvent pris à tort comme un thème politiquement marqué réactionnaire, qui est « le monde d'aujourd'hui n'est plus un monde dans lequel je peux vivre ». C'est-à-dire, Gu dit au tout début, il le dit plusieurs fois en film.
Je suis plus de votre monde.
Voilà. La mentalité ici a trop changé, ça n'irait pas. Bon. Faut pas prendre ça comme un thème réactionnaire dans le sens que c'était mieux avant. Parce que ça, par contre, on comprend rien si on pense ça. Et là, vraiment, on est à côté de la plaque. C'est un thème, de nouveau, que je pense très fort et très éternel, dans la mesure où c'est chaque personne peut penser que le monde qui l'entoure n'est pas le sien. C'est le fameux système américain du poisson hors de l'eau, fish out of the water, ils appellent ça, qui est un thème extraordinairement fort, auquel tout le monde peut adhérer et comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Donc tout ça,
peut-être pas aller jusqu'à en mourir.
Ah, ça c'est autre chose, ça c'est au cinéma. Le cinéma permet de pousser le bouchon très loin et d'aller au bout des conclusions. Le pari d'un tel livre ou d'un tel film éventuel, c'est que les gens s'identifient à ce personnage qui normalement on devrait rejeter tout le temps et comprennent ce qu'il est en train de vivre, parce que c'est aussi une partie d'eux-mêmes. Alors sans aller, bien sûr, jusqu'à la mort. Le cinéma permet de vivre et de catharsiser, hein, c'est une vieille histoire, des situations intimes qu'on arrive à comprendre, parce que ça fait partie de vous, même si vous le rejetez. Une des belles choses et surprenantes dans la vie, c'est d'être surpris par soi-même. On ne se connaît vraiment pas soi-même. Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise avec les mots d'ascèse, les mots de pureté personnelle, les mots de recherche d'intégrité, des choses comme ça. Je pense que ça mène au fanatisme. Je pense que cette façon de penser est très dangereuse. Je pense que ça mène à l'intégrisme, au fanatisme, etc. Quand j'entends purification de l'être pour arriver à la pureté d'identité, je suis terrorisé. Je pense que nous sommes tous métissés d'un tas de choses, fait d'un tas de trucs qu'on ne comprend pas soi-même très bien, d'un tas d'influences contradictoires, et c'est ce qui vous fait vous. Et ça, c'est la beauté des choses. C'est pour ça que tous les gens qui ne vous ressemblent pas sont magnifiquement étrangers et magnifiquement frères. Et ça, je trouve que c'est une richesse incalculable.
C'est la phrase de Montaigne que vous aimez bien citer.
Oui, absolument.
Il y a autant de distance entre moi et l'autre qu'entre moi et moi-même.
Mais oui, mais c'est tellement vrai. Enfin, je ne sais pas, c'est presque du sens commun, à mon avis. Mais ça va, il vaut mieux en le disant.
C'est comme les mantras, comme les choses les absolument. Plus simples qui sont les plus vraies, absolument. Les plus efficaces.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui. Alors bon, j'en fais pas un combat ni un message. Hein, c'est pas mon but, ni c'est pas ma je pratique pas ça, moi, le message. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'entends trop parler d'une manière un peu irresponsable, je veux dire, de pureté, de choses comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui me fait un peu peur, voilà. Hein, de la religion, hein, renouveau religieux, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, je veux dire, que je comprends d'ailleurs, mais j'ai toujours peur, là, qu'il y ait un affrontement stupide, meurtrier. Acculturel, etc., quelque chose qui fait qu'on ne comprend plus les autres, quoi. Je pense malheureusement que dans beaucoup des cheminements dits de pureté, il y a le fait qu'on devient sourd aux autres, voilà. Et ça c'est un véritable drame, j'en suis absolument persuadé. À ce moment-là, on met tout dans le même sac. On parle du monde islamique, par exemple, ce qui, à mes yeux, n'a aucun sens. Quel est le rapport entre un paysan marocain et quelqu'un dans les zones tribales pakistanaises? Franchement, je suis désolé,
ça aussi,
c'est des gens très différents. Hein.
À la fin du deuxième souffle, quand la vie renaît dans la rue marseillaise, il y a cette femme voilée.
Bien sûr,
il y avait ça
Marseille.
À Marseille dans les années 60.
Marseille a toujours été une porte vers l'Orient. Et Marseille a toujours été le refuge, l'accueil de toute la Méditerranée et de l'Orient et même de l'Extrême-Orient. Il y a des communautés arméniennes très fortes, il y a toujours eu des Maghrébins, il y a toujours eu des Africains, il y a toujours eu ça. La preuve, c'est qu'une des obsessions d'Hitler, c'était de raser Marseille à cause de ça. Hein, c'est un peu la preuve par l'horreur et par l'absurde. C'est eux qui ont fait sauter une grande partie du vieux quartier, du vieux port. Hein, parce qu'ils disaient que c'était vraiment le symbole de l'horreur, du cosmopolitisme avec tous ces mots affreux dont on parlait à l'époque. Donc c'est vrai que je tenais beaucoup, à ce que le spectateur, à la fin, sorte de mon système de représentation tragique et qu'on ait enfin une vision des gens comme vous et moi, quoi. Voilà,
qui sont, et en même temps, on sent le gros budget parce qu'il y a un Marcel Duchamp, il y a le porte-bouteille qui sort comme ça.
Oui, ça, c'est pas très cher, ça.
Dans les années 60, pas encore.
Oui, non.
Pour rester sur le deuxième souffle, on se dit, ou alors un peu comme dit le personnage d'Éric Cantona, oui. Je me suis pensé à voir le film, qu'il y avait une vraie jouissance pour vous à filmer ça. Quel est le plaisir? Ça mitraille beaucoup. Oui. Il y a, avec les effets spéciaux, oui. On sent la force qui projette
bien
l'homme
sûr.
Qui va être tué,
bien
ils sont
sûr.
Criblés de balles.
Bien
enfin,
sûr.
On a du mal à voir ce qui est jouissif à ce point et ce qui vous plaît, vous, Alain Corneau, qui aimait autant tous les matins du monde. Enfin, il y a un hiatus tout d'un coup très, très frappant.
Je ne pense pas qu'il y ait un hiatus. Je pense que tout est affaire de... Bon, alors, je vais parler simplement de mise en scène, donc
oui.
de liturgie.
Mmh. Oui, toujours.
Je pense que si on est dans un univers noir et brutal comme celui du personnage de Gu... À ce moment-là, cette liturgie va jusqu'à la représentation de la violence, je veux dire, en tant que telle, avec une chorégraphie de cette violence qui doit être en même temps montrer la gravité des faits et en même temps avoir une acceptation esthétique. Je veux dire, c'est là où, de nouveau, on en a parlé dans une autre émission, on est devant le mystère de la représentation. Je veux dire, il y a quelque chose où je n'ai pas la réponse. Seul le spectateur peut la voir en l'acceptant, en le refusant.
Oui.
Voilà, c'est tout. Mais je serais vraiment... Au-delà du manque de courage, ce serait vraiment de la malhonnêteté de ne pas aller au bout de ça ou de faire des impasses sur ces moments-là. Je veux dire, c'est des moments qui participent de ce personnage, de cet univers tragique, Si on parle tragédie, je veux dire, que ça soit Shakespeare ou les Grecs, il n'y a pas plus sanglant. Hein.
Bien sûr, mais il y a un grand pas entre la scène que l'on évoquait entre Simone Signoret et Yves Montand, oui. où il va la suicider, oui. Et où on ne verra pas le visage ensanglanté de Simone Signoret, le deuxième souffle,
Là,
où chaque mort est donnée à voir de façon très très violente.
Oui, parce que alors là, ça c'est aussi une question d'époque et de regard rétrospectif. À l'époque de l'écriture du livre, dans le cinéma français en général, sans parler du film de Melville, qui était un chef-d'œuvre indépassable, la question n'est pas là, c'est qu'on faisait l'impasse là-dessus. Aujourd'hui, il me paraît difficile de montrer un tueur, parce que c'est un tueur, Gu, quand on mettait quelqu'un qui tue, mais qu'on ne voit pas ce que ça fait. Que dans le fond, c'est un tueur, c'est une sorte d'étiquette, mais il n'y a pas de résultat. Je veux dire, on ne voit pas physiquement sur l'écran qu'il tue des gens et qu'il y a du sang. Je veux dire que c'est quelque chose de spectaculaire, oui, bien sûr, mais que deuxièmement, c'est grave. Que sinon, on banalise ça. Je veux dire, j'ai l'impression qu'on parle plus de la même chose à ce moment-là. Voilà. Alors à l'époque, c'était différent. La violence n'est pas vécue de la même manière. Aujourd'hui, je veux dire, avec tout ce qui s'est passé dans le cinéma et la façon qu'on a de voir tout ça.
Mais c'est pas une façon de la banaliser aussi, de la montrer à ce point exacerbée.
Ah, ça, j'en sais rien. Là, j'ai pas de réponse. Ça, c'est une question récurrente dans le cinéma, dans lequel je ne peux pas avoir la réponse. Je crois qu'il y a un moment où on arrive à saisir dans les films quand même le moment où ça bascule dans la complaisance narcissique, ou alors quand ça reste dans le domaine de la représentation, dans le sens de coup de poing pour affirmer quelque chose esthétiquement. Pour botter en touche, je veux dire, je vois pas Martin Scorsese, à qui on a toujours parlé de violence, basculer du mauvais côté, j'ai pas l'impression. Il y a une autre réponse aussi, qui est celle de Tarantino, qui a l'air comme ça plus rigolote. Il dit, quand on fait des films policiers, il y a de la violence. Et on vous pose toujours la question là-dessus. Or, quand on fait une comédie musicale, il y a des gens qui dansent. On vous demande pas pourquoi les gens dansent. Je veux dire, voilà. Donc, je crois qu'en fait, c'est malheureusement la seule réponse qu'on peut avoir. Oui. C'est vieux, 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 parce que le premier film parlant de gangster qui était Le Public Ennemi a été en foudre de la censure, était terrible parce que le personnage était négatif, on le voyait tuer, etc. Et il y avait aussi cette espèce d'apparence, complaisance sur la représentation de la violence. Et ils ont été obligés de mettre un carton au début, le personnage est horrible, etc. On n'est pas d'accord avec lui, patati patata. Mais n'empêche que c'est le cœur même du problème au cinéma, la question
et
du cinéma.
Et pour vous, à tourner, pour les comédiens, c'est une chose éprouvante? Est-ce qu'on sort pareil d'un tournage comme ça que d'un tournage plus sentimental?
Non, à partir du moment, je crois pas, non. C'est un tournage qui s'est très bien passé, on a été vite, etc. Non, je pense que les acteurs ont dû, je crois, comprendre très vite que ça faisait partie du film, ça faisait partie du cahier des charges, si j'ose dire, et que ça rentrait complètement dans le cadre de cet essai de recréer un univers à partir de ces postures morales. Je veux dire. Donc, il y avait forcément violence et forcément résultat de la violence. Il n'y a rien à faire. Maintenant, je pense qu'il y a une façon de l'épurer, quand même. Hein. J'espère l'avoir un peu réussi là-dessus, mais j'en suis pas sûr. Hein. Ça, on ne sait jamais. Ce ne sont pas des choses faciles. On le fait avec passion, des fois avec enthousiasme, et toujours avec doute. C'est des moments assez complexes, qui sont des moments qu'on peut appeler de création. Il faut être très honnête, on n'est plus tellement en charge, en commande de la conscience exacte de ce qu'on est en train de faire.
C'est ça aussi le template dont vous parlez.
Oui, absolument. Il y a un moment où on se dit, ah là, la prise est belle, sans bien savoir si ça a des conséquences morales, dont on se fout un peu. Je veux dire, franchement, il y a un moment où on se dit, la morale, c'est pas ça qui me motive pour faire le film. Hein. L'effet que peut avoir telle et telle scène, je veux dire... Je dis pas qu'on s'en fout, hein, parce que c'est pas ça la question, on pense pas comme ça non plus. Mais on a envie que ça fonctionne, quoi, et puis c'est tout. C'est très modeste. On se dit, on espère que la scène va fonctionner, qu'elle va fasciner les gens, ou du moins il va y avoir un choc révélateur, ou des choses comme ça, c'est tout. On va pas plus loin que ça, des fois. Hein. On a parlé ensemble de Peckinpah dans Wild Bunch, on est souvent dans cet état-là quand on fait des scènes comme ça. Oui, très très souvent. À se dire, tiens, là, je vais faire ça plutôt que ça. En plus, il y a toujours des problèmes techniques, donc qui commandent des fois des places de caméra, des fois des lumières différentes et tout. Donc, c'est une sorte d'environnement artisanal extrêmement puissant qui amène cette scène-là. Mais il y a quand même quelque chose de révélateur, c'est quand on tourne ces scènes-là sur le plateau, il y a une sorte de tension. Ce sont des moments spectaculaires.
D'autant que vous avez des acteurs assez hors normes aussi.
Ah oui, non, mais là, j'ai été très chanceux sur la distribution des rôles, oui, absolument. Je crois que chacun est exactement à sa place. Et...
Avec Daniel Auteuil, c'est une vieille histoire de projet
avorté,
amorcé et inabouti.
Il y a des fois, c'est moi qui ai reculé, des fois, c'est lui, etc. Si on veut être positif, on se dit qu'il fallait qu'on attende un peu. Voilà. Et que, en tout cas, lui a été ravi de recevoir le scénario. Il s'est dit, heureusement qu'on n'a pas travaillé ensemble avant, d'une certaine manière. On dit ça pour se rassurer. Mais c'est vrai que c'est une vieille histoire. Et c'est d'autant plus vrai qu'on avait parlé de Daniel Auteuil avec José Giovanni, avec l'auteur du livre. C'est-à-dire que par rapport au film de Melville, où Ventura est sublime, Lino me dit, José me disait toujours, Ventura est trop dans la force de l'âge. Gu, il a plus passé la ligne. C'est plus le vieux Gu. C'est quelqu'un qui paye pas de mine. Tandis que Lino Ventura avait un charisme incroyable. Quand il arrive quelque part, tout s'arrête. C'est une sorte de géant. Et c'est vrai que José disait, je l'aime le vieux Gu quand il est sur son mur qu'il n'ose pas sauter. Qu'il a peur. C'est là où je l'aime, Gu. Donc c'est vrai qu'on avait pensé à Daniel qui correspond plus au livre, j'entends. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux, hein. Mais je dis qu'on est plus proche de la description du livre.
Ça, c'est le début, quand il n'ose pas sauter. Absolument. Enfin, quand il ose, quand il se pose la question.
Oui, il se demande s'il va y arriver. Il n'y arrive pas vraiment, en plus. Oui. En tout cas, il a peur, oui, bien sûr. Mais pendant tout le film, il se demande s'il est... C'est le deuxième souffle. Est-ce qu'il est encore lui-même? Et quand il participe au fameux gros coup du milieu et qu'il réussit, il se perd un peu lui-même à ce moment-là. Parce qu'il pense qu'effectivement, il est redevenu jeune et tout ça. Et c'est là où il plonge dans l'erreur. c'est là où il va vers sa fin, quoi.
Et vous, Alain Corneau, vous le puisez où, votre troisième souffle, pour le coup? Idée de se sortir d'un film pareil, d'enchaîner d'un film à l'autre,
enfin, j'en sais rien du tout.
Est-ce que vous êtes complètement sur un film,
mais
sur un autre?
Je crois que c'est comme tout le monde, grâce aux autres, grâce aux livres, grâce à ma femme, grâce à la musique, la chance d'un voyage éventuellement, ou d'un seul coup.
Grâce à l'Inde?
Oui, sans doute.
La
oui.
Pensée.
Oui, oui, là j'y pense beaucoup, oui, effectivement. Je pense beaucoup, j'espère cet hiver. Je pense par exemple à Madras, qui s'appelle Chennai maintenant.
Chennai.
Où il y a un festival.
De musique carnatique.
Oh, sublime. De musique, pas que carnatique, de toute l'Inde, oui, oui. Il y a aussi de la musique hindoustanie, il y a beaucoup de musique carnatique, bien sûr. Mais c'est un festival que j'ai vécu une fois et j'ai un souvenir absolument éblouissant.
Avec ce saxophoniste qui joue en tailleur, Kadri Gopalnath,
Oui, puis je me souviens d'avoir vu Parvin Sultana, je ne connaissais pas à l'époque. Et puis il y a de la musique du matin au soir, il y a du Bharatanatyam, il y a de l'Odyssey, il y a de les danses, il y a tout. Je ne sais pas ce qui est devenu ce festival, mais enfin, c'est pas...
Oh, il a continué.
Bah oui,
il a toujours cette façon de vivre comme ça. Les gens viennent, repartent, vont boire un chai
ou
un café au lait.
Et
ils reviennent. Enfin, il y a une façon comme ça de vivre la musique au quotidien qu'on ne connaît pas du tout.
Il y a des endroits qui sont ouverts où il y a des oiseaux partout. Je sais bien. Il y a les gens sur la scène. Il y a tout ça. Oui, je sais bien. Oui. Mais il y a beaucoup de beaux festivals. Il y a Gwalior qui est un beau festival, il y a Ahmedabad qui est un beau festival. Enfin, une des richesses de l'Inde, c'est d'avoir gardé cette culture et de l'aider énormément. Je veux dire, ça, c'est une des noblesses de l'Inde, même si l'Inde change beaucoup en ce moment. J'espère qu'ils vont garder cette passion-là.
Et des projets?
Non, comme toujours, pas vraiment, malheureusement. Malheureusement, non, j'aimerais bien l'avoir. À chaque fois que j'ai eu un projet d'avance, en sortant d'un film, ça s'est mal passé. Voilà, j'avais plus envie de le faire et tout. Donc, depuis ce temps-là, je me dis, tant pis, t'as un rythme comme ça, fais ton film et puis après tu verras bien. C'est un peu bizarre parce qu'on sort d'un film, il sort et puis après on est dans un trou noir. Alors, s'il marche, tant mieux. S'il marche pas, c'est pas facile, mais c'est comme ça.
Le deuxième souffle, par exemple, alors certes, vous l'avez en tête depuis plus de 20 ans, 30 ans, mais c'est combien de temps de travail? Enfin, ça fait 3 ans que vous êtes là-dessus?
3 ans, oui, ça fait à peu près 3 ans. À l'écriture, attendre le truc, à le préparer, oui, ça fait à peu près 3 ans, oui. C'est pas énorme, hein. Il y a des fois des films, c'est 4 ans, 5 ans. Hein. Pour une attente de 30-35 ans, ça vaut le coup.
Mais justement, quand on retrace comme ça votre filmographie, c'est assez touchant parce que à la fois vous dites « je louvoie, je passe d'une chose à l'autre, je ne suis pas repérable », et en même temps, si, il y a des images, il y a des échos comme ça qui se répondent.
Oui.
Par exemple, on a cité « Police Python 357 », cette carrure de l'inspecteur Ferraud par Yves Montand, quand il est déjà son lit au départ extrêmement pur,
genre clinique,
et puis après quand il est de dos et qu'il pêche, silencieux, vous en parlez d'ailleurs comme un homme muet comme un poisson, et tout d'un coup, fermé à double tour, le muet comme un poisson, c'est le Sainte Colombe de tous les matins du monde, qui lui aussi est dans un étang. Enfin, il y a comme ça des images.
Je ne sais pas
si vous percevez les ponts.
Si, je le perçois de temps en temps. Je perçois, par exemple, que quand j'ai filmé Daniel Auteuil en Gu dans Le Deuxième Souffle, qui se prépare à aller faire son gros casse, là, le gros coup, ça ressemblait effectivement à Montand qui s'habille, etc., qui se prépare avant de sortir et tout. Il y a des cousinages. Fugitivement, hein, parce que je sais qu'à chaque fois, il ne faut pas que je me raccroche. Mais en même temps, c'est quelque chose qui trouble plutôt qu'autre chose. Bon. La question que je me pose à chaque fois, c'est effectivement quand j'ai un coup de cœur pour un livre ou un sujet, il n'y a qu'après coup. Je me dis, mais pourquoi? Parce que le coup de cœur, il est vraiment irrationnel, franchement. Il n'est pas réfléchi, il est purement presque charnel. C'est un coup de foudre. Bon. Et après, alors où ça vient pendant que j'adapte, parce que je le tords sans avoir conscience vers quelque chose qui m'est proche, j'en sais rien, ce qui s'appelle s'approprier, soi-disant, ou alors ça y est au départ, Et c'est vrai que de temps en temps, je me dis, tiens, oui, alors bon, alors je comprends pourquoi j'ai eu envie de faire ça, parce qu'il y a tel truc, tel personnage qui s'est perdu, qui se retrouve, il y a tel truc, bon, qui ressemble un peu, bon, donc je suis en terrain inconnu, voilà. Mais il ne faut pas que je sois trop obsédé par ça au moment de la décision première qui est la plus importante, parce que sinon, alors là, je vais rentrer en manipulation, oui, non, là, et je ne veux pas, je veux rester en terrain vierge. Et je vais à chaque fois aller à la découverte de quelque chose qu'apparemment je ne connais pas encore. Mais c'est vrai que de temps en temps, je ne suis pas un enfant. Je sais que de temps en temps, tiens, oui.
déjà vu, ça.
Il doit y avoir ça, oui.
C'est comme ces images qui nous apparaissent tout d'un coup et qu'on a le sentiment d'avoir vécu.
Oui, le sentiment déjà vu. Le fameux sentiment déjà vu. Oui, qui est très fort. Qui veut dire quelque chose culturellement, ça c'est sûr, oui. La recherche de ce thème profond, je veux dire, il faut continuer à ne pas trop savoir pourquoi, ni ce que c'est exactement. Je ne sais pas que je veux m'aveugler avec ça, ni ne pas chercher, ni rien, tout ça. Mais enfin, je sais que pour moi, ça reste mystérieux. Même si j'arrive à voir des adhérences, des choses comme ça, si on parle bêtement, intellectuellement de la recherche d'identité, je vois pas pourquoi je serais obsédé par ça. Franchement.
Et pourtant, c'est le thème de tous vos films.
Bah voilà, oui, bah alors là, je sais pas quoi dire. Voilà. Donc, bah, je vois qu'est-ce qui aurait fait dans ma petite enfance, à tel moment, j'aurais eu cette espèce de truc.
Vous l'avez dit vous-même en commençant, je suis né en 43, j'ai été conçu pendant la guerre.
Je me suis dit ça de temps en temps. D'ailleurs, il y a un film que j'ai jamais fait qui se passerait pendant. J'ai eu plusieurs projets comme ça que j'ai jamais fait. Oui, j'ai jamais fait. Je pense qu'il y a encore des films à faire, bien sûr, sur plein de choses. Et sur ce moment-là en France, oui. Je pense que ces moments où j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, j'ai travaillé avec Ferro, j'ai travaillé avec plein de gens sur cette période, sur Vichy et Paris, hein, ce qui n'est pas pareil. Je pense qu'il y a eu là quelque chose qui s'est passé en France, qui nous détermine encore aujourd'hui, dans le syndrome de Vichy. Peut-être c'est pour ça que je n'ai jamais fait ce film, d'ailleurs. Peut-être que je n'ai jamais réussi à aller au bout de ce film-là, mais j'espère qu'un jour, peut-être, ça arrivera, qui serait vraiment au cœur du volcan, quoi. Qui serait vraiment l'œil. L'œil du volcan plutôt que le cœur. L'œil du cyclone, peut-être. C'est une piste. J'en sais trop rien. Voilà, c'est une piste. Mais cette période où tout a été contradictoire, gris, violent, tabou après, etc., la Shoah par-dessus, c'est pas rien. Hein, et après Paxton qui arrive dans les années 70, donc un historien étranger, américain, qui dit mais Vichy, c'est pas du tout une exception, c'est pas une parenthèse. Hein. Moi, j'ai fait le calcul entre les grands corps du fonctionnaire, les grands corps avant, pendant et après, changement 10%. Vous appelez ça une parenthèse, vous ? Une exception ? Pas du tout, c'est une continuité. Oui. Vérité difficile à entendre. Mais n'empêche que après, ça a débloqué tout le travail sur Vichy, hein, qui a été fait après par plein d'historiens, mais qui n'est pas fini. Hein. C'est, quand on est français, tout ça, et qu'on a un peu de conscience, c'est quelque chose qui vous parle.
Merci Alain Corneau.
Merci à vous.
C'était Alain Corneau, à voix nue, avec Sophie Nolot. Ces entretiens ont été réalisés par Laurent Polleret, grâce aux prises de son de Marcel Lebras. Vous pouvez réécouter chacune de ces émissions sur le site internet de France Culture, www.franceculture.com.